nossa ideia.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le lundi 17 novembre et jusqu'à 6h30, c'est votre réveil culturel. Avec cette semaine, une nouvelle série, Astérix, un Européen par Toutatis, par Sven Ortoli, déjà présent avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et puis en deuxième partie, je recevrai l'écrivain Anna Rosen pour son dernier roman édité par le Dilettante, J'ai eu des nuits ridicules. Toute cette semaine, Un autre jour est possible est réalisé par Michel-Ange Vinti avec à la technique Eric Boissé. L'assistante d'émission reste toujours Anaïs Isbert. Et si vous n'êtes pas lève-tôt, je vous rappelle que vous pouvez écouter Un autre jour est possible en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Et à cet effet, merci d'être de plus en plus nombreux à nous podcaster.
Oh, arrêtez, Bélix, arrête.
Ouais.
Tu entends? Un bruit de chaîne.
Ouais.
Des bruits de pas.
Ouais.
Des lamentations. Allez vite, grimpons au sommet de cet arbre. Je crois que nous allons nous dérouiller les muscles, mon bon Bélix.
Par tous les dieux, j'aurais mieux fait de rester à Rome, plutôt que d'aller chercher fortune et gloire dans les légions de César.
Alors.
Ma peau ne vaut plus un zesté.
Allons, tais-toi, Caligula. Tu sois le seul épargné quand les hordes gauloises nous tomberont dessus.
Hop là !
C'est fait.
Les Romains traînant un prisonnier gaulois, par exemple. Nous allons le délivrer.
Allez, en avant !
Par ce putain légionnaire, aucune résistance, les voilà, les Gaulois.
Par Toutatis, enfin du smeur.
Astérix, un Européen par Toutatis, c'est donc notre nouvelle série cette semaine, en partenariat avec Philosophie Magazine, qui consacre un beau numéro spécial aux héros de la BD, créé par René Goscinny et Albert Uderzo, devenu depuis Patrimonial. Une série avec Sven Ortoli, qui a coordonné ce hors-série. Et puisque cette rubrique s'appelle Tête chercheuse, on peut dire que vous êtes une tête chercheuse, Sven Ortoli. Vous venez du monde de la science, vous avez eu un doctorat de troisième cycle en physique des solides, et puis vous êtes devenu journaliste d'abord scientifique pour le mensuel Science et Vie, avant d'arriver à Philosophie Magazine.
Oui, et au passage, j'ai fait de la jeunesse, puisque j'ai créé un journal qui s'appelait Science et Vie Junior, dont j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, particulièrement fier.
Tête chercheuse avec Astérix le Gaulois, est-ce que l'approche philosophique vous intéresse autant que l'approche scientifique des choses ?
Après un parcours assez... Enfin, je trouvais ça très surprenant au départ, l'approche philosophique que j'ignorais totalement, et d'ailleurs et dans lequel je suis encore un béotien. Mais au contact de mes camarades de Philosophie Magazine, j'apprends, et c'est très différent, c'est un autre monde.
Astérix, un Européen par Toutatis, c'est parti. Premier épisode, le tour d'Europe d'Astérix le Gaulois. Parce qu'il y a beaucoup de tribulations de nos héros à travers l'Europe, la France.
Il y a des tribulations à travers la France, il y a des tribulations à travers en Allemagne, chez les Gauls, chez les Grands Bretons, donc en Angleterre, en Ibérie, donc en Espagne. En réalité, Astérix fait quelques incursions, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Méditerranée, mais c'est avant tout un héros européen. C'est un héros européen parce que c'est quasiment dans sa structure de base, dans son ADN, si je puis dire. Il est conçu par Goscinny et Uderzo à un moment où l'Europe est en train de se construire. On est dans cette période de l'après-guerre où on se reconstruit évidemment industriellement, économiquement, mais aussi et peut-être d'abord moralement. Donc le personnage d'Astérix surgit. Si je puis me permettre cette bifurcation, et j'en ferai certainement de nombreuses, c'est pas pour rien que c'est un Gaulois. C'est un Gaulois dans une France qui vient d'être libérée par De Gaulle, mais enfin ça c'est un peu facile, mais qui a besoin de sentir qu'elle n'a pas été totalement laminée par la guerre. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Elle a été laminée par la guerre, la résistance, qui est aussi un des thèmes d'Astérix, et c'est aussi un des thèmes européens d'Astérix, c'est un des thèmes qui touche le plus les gens, que ce soit en Espagne, que ce soit encore une fois en Espagne, Et en Allemagne, on reviendra certainement sur l'Allemagne qui est très intéressante parce que c'est le pays, après la France, le pays qui achète le plus de bandes dessinées Astérix. Je crois que les chiffres sont de l'ordre de 130 millions de bandes dessinées vendues en France et 120 millions vendues en Allemagne. C'est gigantesque. Et donc on verra pourquoi peut-être Astérix est aussi un héros allemand, un héros franco-allemand, mais c'est avant tout... C'est le héros de l'Europe. C'est le héros de la construction de l'Europe. C'est le héros de la résistance. C'est le héros d'une Europe qui se transforme, qui est en train de devenir, qui est en train de se rendre compte que le pouvoir qu'elle avait, le pouvoir qui était celui des grandes puissances, qu'on appelle les grandes puissances européennes, c'est devenu les petites puissances européennes. Celles qui dominent à la fin des années 50, à la naissance d'Astérix, c'est la Russie d'un côté, enfin l'URSS, les États-Unis, et la Chine est en train de surgir. Donc, et sans compter les pays la décolonisation, enfin tout le paysage politique, donc le paysage économique, donc le paysage moral de l'Europe, le paysage moral et culturel de l'Europe est en train de se recomposer. Et ça, Astérix, à sa manière, l'accompagne. Alors, je ne veux pas lui faire porter un chapeau trop large, c'est juste qu'il exprime ça. Et c'est probablement l'une des raisons du succès d'Astérix, c'est que avec gentillesse, avec bienveillance, avec humour, ils ont inventé quelque chose qui se retrouve être comme la créature de Frankenstein, qui dépasse complètement son auteur, mais dans le bon sens du terme, quand la créature a subi un sort sinistre, celui d'Astérix est bien meilleur.
Mais quand vous dites, Sven Ortoli, que Astérix est un héros européen, est-ce que c'est dans le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire pour une Europe, ou c'est plutôt... Et c'est ça le paradoxe d'Astérix, c'est le français patriote nationaliste et européen.
C'est le patriote,
parce
c'est le nationaliste.
Oui, parce que la notion de frontière est très présente
très présente.
Paradoxalement.
Exact, vous avez tout à fait. La notion de frontière est extrêmement présente. La notion de rencontre avec l'autre qui est toujours cinglée, qui est toujours, dont on ne comprend rien, qui a toujours des mœurs extrêmement bizarres, vu du côté gaulois, est un des artifices qu'utilise Goscinny lorsqu'il concocte chaque scénario. Néanmoins, ça ne fait... Derrière ce côté français, chauvin, attaché à son paysage, à son pays, etc., il y a quelque chose qu'on retrouve à son village, il y a quelque chose qu'on retrouve dans tous les coins de l'Europe, et en particulier aujourd'hui. C'est ce qui est très étonnant, c'est que si on fait cette fois non plus de la philosophie, mais de l'histoire des idées, c'est de regarder comment Astérix a pu faire résonner une fibre qui n'est pas seulement une fibre française, mais dans tous les pays où chacun se retrouve face à un monde qui est de plus en plus inquiétant, de plus en plus angoissant, de plus en plus vaste, où chacun se sent de plus en plus petit, et donc se tourne vers ce qui lui semble être le plus fondamental, c'est-à-dire les valeurs de son village, de sa culture, de sa nation. Et il y a un très bon côté à cet attachement. Il y a un mauvais côté aussi, qui est celui, dès qu'on tombe, dès qu'on bascule, et ça va être une des analyses qu'on trouvera dans le numéro sur le flanc politique de la philosophie, c'est quelle est la différence entre une bande dessinée qui utilise les clichés nationaux et des partis politiques d'extrême droite le plus souvent qui utilisent les mêmes clichés nationaux.
Pour ne pas dire récupèrent les mêmes.
Ou récupèrent les mêmes clichés, récupèrent bien sûr les mêmes clichés nationaux, les emplois à plein. Parce que l'un comme l'autre font appel, il y a quelque chose de commun entre les deux, c'est-à-dire que nous avons besoin des clichés pour vivre, nous avons besoin des clichés pour aller vers l'autre. Simplement, dans l'utilisation qu'on en fait et dans le regard que nous portons sur ces clichés, il y a toute la différence entre un parti d'extrême droite anglais ou français et la bande dessinée d'Astérix. Mais...
Les nationalistes sont très présents, et pas seulement en Corse, dans l'univers d'Astérix, Sven Ortoli.
Non, pas seulement en Corse, il y a un particularisme corse, comme il se doit, que je ne vais pas faire le Corse de service, j'aurais du mal, bien sûr, en vous en parlant. Mais le cas de la Corse va être l'album Astérix en Corse. C'est un album très drôle et très réussi de mon point de vue, très réussi d'ailleurs du point de vue de tous les Corses. Mais c'est très différent d'aller regarder Astérix en Angleterre, chez les Bretons, en Angleterre, donc Astérix chez les Gaux, donc côté, et Astérix en Corse. Mais à chaque fois, on a des ressorts qui sont montrés sur notre relation à qu'est-ce que nous imaginons de ce qu'est l'autre, de ce qu'est le Gaux, c'est-à-dire l'allemand, le germain,
ou l'espagnol,
ou l'espagnol, ou le Comment il nous est nécessaire d'avoir encore, en quelque sorte, un passeport pour aller vers l'autre? Et comment nous devons aussi nous extirper de ce passeport pour ne pas rester, justement, parce que si on y reste, on tombe dans le nationalisme des partis d'extrême droite aujourd'hui.
Que représente l'Empire romain dans l'univers d'Astérix en train de se faire dans la France d'après-guerre? Est-ce que c'est une manière aussi de parler de l'Europe qui a envie d'exister à côté du grand empire américain, où il faudrait chercher ailleurs, peut-être dans les deux blocs, la signification de ce que représente, de comment est réincarné dans les aventures d'Astérix Rome?
Eh bien, la réponse tient aussi à la nationalité de celui qui lit et dans quelle langue. Si vous êtes allemand, vous aurez une lecture différente de la lecture française. Mais pour ce qui concerne la lecture française, il me semble, et il semble à certains des intervenants du numéro, que l'Empire, c'est l'Empire de la consommation, c'est-à-dire évidemment l'Empire américain qui est en train de submerger submerger avec des raisons qui tiennent aussi au fait qu'on vient d'être, l'Europe a été libérée. Pas seulement par les Américains, d'ailleurs.
En grande partie par
l'Union soviétique aussi. Ça va être un des problèmes qui seront...
De l'après-guerre, oui.
Un des problèmes de l'après-guerre. Mais oui, bien sûr, l'Empire romain, c'est d'abord et avant tout l'Empire de la consommation.
Et puis enfin, pour terminer ce premier épisode consacré à Astérix, en attendant la sortie du film, le hors-série Philo Magazine, donc un numéro spécial, tourné autour d'Astérix le Gaulois dans un univers européen, puisqu'on le remet dans l'univers européen. Est-ce que c'est pas aussi cette bataille que se livraient deux grands de la bande dessinée, René Goscinny et puis Uderzo, face à une autre école de la bande dessinée, l'école des comics, c'est-à-dire aussi une bande dessinée européenne, franco-belge, pour aller vite, qui essaye de s'imposer avec ses propres codes, non ?
Oui, il y a cet aspect, d'autant plus que les deux grands héros, enfin ceux qui surgissent à ce moment-là, il y a Tintin, d'une part, Tintin et Astérix, c'est-à-dire c'est face à la déferlante des comics. Cette déferlante des comics, enfin déferlante, disons que les comics sont très très présents dans les kiosques en France, un peu moins parfois en Allemagne, mais ils sont présents en France, en Italie, en Espagne. Et que les héros qu'ils représentent, les héros sont des... vous les connaissez, c'est Superman, c'est Batman, c'est les X-Men, c'est tous les gens de Marvel qui surgissent dans ces années-là et qui sont sensiblement différents d'Astérix et Obélix. Vous avez remarqué qu'Astérix, il est petit, il est teigneux. Obélix est gros à la limite. Aujourd'hui, on s'étonne même de voir cette espèce d'énorme, cette montagne de chair. Dans un monde qui valorise plutôt le mince que le gros. Et eux, c'est des héros qui s'opposent aussi aux valeurs, à ce qui est transmis à la culture américaine, telle qu'on la fantasme et telle qu'elle est également. Et ce sont vraiment deux héros pour lesquels les valeurs fondamentales, c'est l'amitié, bien sûr, qui est valorisé aussi chez les rois américains, mais pas de la même manière. C'est l'amitié, c'est le banquet, c'est le partage, c'est la bonne bouffe, c'est toutes sortes de choses qui sont totalement mises de côté. Je ne parle pas pour l'amitié d'ailleurs, mais pour le reste, totalement mises de côté dans les bandes dessinées américaines. Donc oui, il y a cette opposition très franche et très directe.
Sven Ortoli, on se retrouve demain pour le deuxième épisode, et demain on verra si les personnages d'Astérix le Gaulois auraient voté plutôt oui ou plutôt non à tous les traités européens qui sont d'actualité aujourd'hui. À demain.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Passé en surface, je me voulais léger, léger, du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume, ignorais la stèle enclume. Je balayais mes propres traces, que de temps perdu en surface. océan surface, que de temps à ne pas succomber aux spleen et aux étoiles plombées, que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo, et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau. C'est l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface, tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tomber et claquer. Perdu en surface.
France Culture, un autre jour est possible. Toufi Kaken.
Bonjour Anna Rosen.
Bonjour Toufi Kaken.
Dernier livre paru aux Dilettantes, J'ai eu des nuits ridicules. Voilà un roman très moderne. Une satire qui fait tilt comme dans les bonnes séries TV new-yorkaises. Les protagonistes sont des bobos, comme on n'ose plus le dire aujourd'hui. Des trentenaires qui frisent la quarantaine. L'héroïne qui, bien sûr, vit seule, évolue dans cette bulle, avec ses névroses, sa solitude, ses petites addictions. Et ce n'est que le début du roman. La rencontre avec l'adolescent fugueur égaré dans la nuit viendra bien sûr perturber cette wonderful life parisienne. Ce sera une très compliquée histoire d'amour sulfureuse. Mais plutôt que de parler du vif du sujet, Anna Rosen, c'est-à-dire de la relation entre Valérie Labobo et Étienne Lado, parlons de son cadre, le Paris d'aujourd'hui, avec sa faune branchouille, toute la culture, pour ne pas dire toute la futilité de ce petit monde est très bien rendu, jusqu'au titre qui résume bien le cynisme soft de l'époque. J'ai eu des nuits ridicules. Et le plus extraordinaire, figurez-vous, c'est d'apprendre que le titre qui sonne tellement actuel est vieux, de plus de 100 ans. Et le plus sensationnel, c'est de savoir que l'histoire qui est racontée dans ce livre n'est qu'une adaptation d'un roman de Jean de Tinan, paru il y a plus d'un siècle. Je dis adaptation pour ne pas dire détournement et ne pas aggraver votre cas, Anna Rosen.
C'est gentil de votre part, mais c'est un peu ce que j'ai fait, effectivement. Le roman original de Jean de Tinan s'appelait Émienne ou le détournement de mineur. Et donc je me suis amusée à le détourner parce que j'ai avec Jean de Tinan une histoire maintenant ancienne.
Jean de Tinan, ouais.
Alors voilà, Jean de Tinan, c'est un jeune homme qui est né, je ne sais plus, mais il est mort en 1898 et il avait 25 ou 26 ans.
Très jeune donc.
Très jeune. Et c'était un nègre de Willy, le mari de Colette. Qui a effectivement aussi fait travailler Colette comme nègre. Et donc, Willy avait une espèce d'écurie d'écrivains tous plus magnifiques les uns que les autres et qui volontiers participait à ses livres, des livres qui s'appellent « Maîtresse d'esthète »,« Lélie fumeuse d'opium »,« Un vilain monsieur », des choses comme ça, et qui étaient des livres, un peu des romans de gare, mais vraiment faits avec beaucoup d'esprit et de talent. Et donc, il avait, il y a Kurnonski qui écrivait dedans, il y a Paul-Jean Toulet, il écrivait. Il y a Paul-Jean Toulet, par exemple, a fait les parties fumerie d'opium dans Lélie fumeuse d'opium. Jean de Tinan a écrit Les trois quarts de maîtresse d'esthète, qui est l'histoire d'une une jeune cocotte, enfin même pas d'ailleurs, qui suce le sang des peintres en fait et qui les tue les uns après les autres. Enfin, c'est toujours des romans très très ancrés dans leur époque.
Mais il était mondain lui aussi, il était bobo comme on le dit aujourd'hui.
Ah, mais je pense que Tinan était bobo. Il était Tinan était fils d'Aristo légèrement déchu. Il était censé faire ses études à Paris. Il avait des amis comme donc Pierre-Louis, je ne sais plus comment était le prénom de Lebet. Enfin, ils étaient toute une bande, une demi-douzaine de garçons jeunes et plus ou moins désargentés, mais pas sans culture, qui couraient les bars du quartier latin et qui passaient leur soirée à parler de littérature, ce qui les intéressait le plus, avec les filles. Et je pense qu'ils avaient tout compris à la vie, en gros.
Alors, quand il écrit « J'ai eu des nuits ridicules », il parle de quoi, au juste, Anna Rosen?
Justement, dans les miennes, donc, parce que moi, j'ai tout inversé. C'est-à-dire que mon héroïne est une femme, forcément, une héroïne, c'est mieux. Et lui, c'est un héros, qui, a priori, donc lui, dans son histoire, le garçon bobo de l'époque couche avec une bourgeoise qui est partie en vacances avec son mari. Et pendant que la bourgeoise est en vacances avec son mari, il rencontre lui une petite fugueuse. Et quand il revient, donc il a le même genre d'histoire qu'à la mienne avec cet ado, ça devient compliqué, mais enfin bref, il héberge cette adolescente dont il ne sait que faire. Il est un peu séduit et en même temps elle est vraiment très jeune. Elle-même est un peu séduite et en même temps là, elle ne connaît rien à rien.
Mais c'est quoi, c'est Lolita avant l'heure?
Je crois que c'est pas du tout Lolita en fait, parce que enfin j'aime beaucoup Lolita de Nabokov, je trouve que c'est un bouquin magnifique, mais je pense que c'est pas du tout le même sujet. Nabokov.
Est-ce que c'est sulfureux?
Beaucoup plus fort.
Est-ce que c'est aussi sulfureux, par exemple, que votre adaptation à la Rosanne?
Tinan est aussi sulfureux?
Dans ce récit.
Ça dépend ce que vous appelez sulfureux. Sulfureux n'est pas ridicule. Sulfureux, normalement, ça veut dire que c'est un peu sexuel et légèrement transgressif et quelque chose comme ça.
Ah oui.
Je pense
pour ne pas employer le mot de pédophilie.
Non, n'advient pas vraiment en même temps. Enfin, on ne sait pas, ça reste
un
peu flou.
On tourne autour du pot.
On tourne autour du pot, exactement. Mais je pense que c'est effectivement une bonne question. C'est-à-dire, je sais que la pédophilie est un des tabous absolus de notre époque, il ne nous en reste plus beaucoup, donc c'est bien qu'on ait au moins ça. Mais je suis bien d'accord que c'est un... Comment dirais-je? Par définition, la pédophilie, c'est une pulsion. Donc effectivement, si on est correct et bien dans sa tête, on ne va pas jusqu'au bout. Mais ça peut être un truc à quoi on pense. Et donc j'ai mis mon héroïne en position de se demander si elle allait faire quoi que ce soit avec ce garçon de 14 ans. En même temps, à 14 ans, on est un grand garçon et voilà. Mais c'est ce que je me suis demandé aussi, si c'était plus cabreux avec une femme et un ado de 14 ans ou plus cabreux avec un homme et une adolescente de 13. Mais pour en revenir aux nuits ridicules, le résultat quand même de cette phrase, c'est que quand la maîtresse officielle du héros revient de son voyage avec son mari, elle demande un peu à son amant comment il s'est débrouillé sans elle. Et il dit « j'ai eu des nuits ridicules » puisqu'effectivement il a passé un certain nombre de ses nuits à regarder cette adolescente en se demandant ce qu'il allait en faire. À tout point de vue. Donc c'est ça qui est ridicule, c'est vrai que ça fait des nuits ridicules, il y a plein d'autres moyens d'avoir des nuits ridicules, mais en l'occurrence, ce sont celles-là.
Anna Rosen, vous avez gardé donc le titre, « J'ai eu des nuits ridicules ». On a compris que vous avez interverti les personnages, hein, le héros devient héroïne, etc.
Et vice-versa, hein.
Et voilà. Mais vous n'avez pas fait seulement ça, puisque vous avez décidé aussi de faire parler tous les protagonistes de cette nouvelle version en parler branché parisien d'aujourd'hui.
Ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que j'étais pas sûre de mon coup.
Ah si.
Parce que
je ne sais pas si vous êtes critique, cynique, si vous vous incluez dans ce monde, si vous le voyez un peu de loin.
Alors parce que j'ai essayé. Parfois, quand il m'arrive de relire des bouts, je me demande si mon parler branché, il est pas un tout petit peu déjà obsolète parce que ça va très vite. Mais c'est vrai qu'il parle comme aujourd'hui. Je voulais que ça ait l'air un peu, que ça ait l'air vraiment 21e siècle. Est-ce que je suis critique? Oui et non. C'est-à-dire, moi, je suis une bobo véritable. J'habite vers le canal Saint-Martin. Je travaille plus ou moins pour la télé. J'écris des livres et mes copains, ils sont journalistes, cinéastes, dessinateurs, auteurs de bande dessinée. Et donc, on fait des métiers comme ça de culture, mais on n'est pas non plus bibliothécaire ou prof.
Non, mais ça, à un certain moment, vous montrez que c'est un peu futile, tout ce monde.
Oui, c'est complètement futile. Et c'est un truc que j'aimais bien aussi chez Jean de Tinan, c'est qu'il est à la fois conscient de sa légèreté, de sa futilité. Il est un peu désabusé.
Et critique ?
Critique, oui, critique. Ils sont tous dans une espèce d'ironie, comme ça, sur ce qu'ils font, qui n'a pas une valeur énorme. C'est des gens qui sont un peu... qui croient pas tellement au sérieux de la vie. Qui pensent que qui sont pas très engagés, par exemple. Il y a pas dans Jean de Tinan. Alors c'est amusant aussi parce que j'ai aussi inversé le côté politique, parce que dans Jean de Tinan, les gentils sont plutôt royalistes et les méchants sont d'affreux socialistes sanguinaires. Et moi, évidemment, j'ai inversé parce que la mode d'aujourd'hui, je dis mode pour la politique, c'est pas très gentil et c'est pas vraiment ce que je pense. Mais il y a un côté comme ça dans ce milieu-là, c'est que c'est plus à la mode d'être de gauche.
De moins en moins. Hein.
Même si foncièrement, moi je suis de gauche de cœur. Hein.
Ouais.
Mais c'est vrai que oui, c'est un peu critique. C'est vrai qu'ils vivent des vies superficielles et ils le savent. Mais ils vivent aussi des vies superficielles parce que vivre une vie sérieuse quand on est né à Paris et qu'on a le bagage qu'on a, qu'on n'a pas un métier manuel dans les mains, On fait forcément des choses très superficielles et on le sait.
Et moi qui n'ai pas lu Jean de Tinon, franchement, j'ai lu votre roman, j'ai eu des nuits ridicules comme si c'était le roman du Paris d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'était plutôt un exercice de style? Parce que, à vous entendre, vous avez respecté toute la structure du roman de Jean de Tinon.
Alors, j'ai respecté la structure et surtout, c'est un roman inachevé, Jean de Tinon. Donc, lui, son héros se demande tout le roman ce qu'il va faire de la petite. Moi, j'ai décidé qu'on allait trouver une solution et qu'on se débrouillerait.
Donc, une morale?
Non, il y a vraiment très peu de morale dans ce livre. Mais lui aussi, il est très dans l'air de son temps. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi quand on lit un livre de Jean de Tinon. On est vraiment avec lui dans les cafés. Il y a des cafés qui ont disparu, comme le Madrid sur les grands boulevards. Enfin, ils avaient leur rendez-vous à différentes heures, et différentes heures surtout du soir, parce qu'il y avait le café de début d'après-midi, il y avait l'endroit où on dînait, la brasserie, après il y avait un spectacle, il y avait tous ces music-halls qui ont disparu, et les cirques avec le promenoir, après il y avait les balles, après il y avait des cabarets. Et donc ils ont une espèce de circulation comme ça dans Paris qu'on a nous aussi, qui fonctionne autrement, mais c'est exactement le même genre d'idée. Et donc j'aime beaucoup ça, j'aime quand on est avec lui, on boit une espèce d'alcool à base de genièvre qu'on ne boit plus beaucoup. Bref, et ils racontent ce qu'ils mangent, où ils sont, comment sont habillées les filles. Et donc j'ai voulu faire la même chose parce que je trouve que quand on lit un livre, c'est agréable qu'il soit trempé dans son époque et qu'on se raccroche par des tout petits détails à la vie, quoi.
Demain, chère Anna Rosen, je recevrai Jean-Luc Marty qui, lui, réécrit à sa manière Paul et Virginie de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Est-ce qu'on peut appeler ça des remakes? Au cinéma, on dit ça, c'est un remake adapté.
Bien sûr, pourquoi on ne ferait pas des remakes? J'ai vu dans la colonne d'Édouard Launay dans Libération de jeudi, que j'aime beaucoup, qu'il y avait un Américain qui avait réutilisé A Rooms of One's Own de Virginia Woolf et qui avait réutilisé les mêmes mots pour faire un autre livre.
Ah, c'est déjà autre chose, ça.
Mais c'est aussi une forme de remake. Donc je pense qu'effectivement, c'est une tentation. Surtout quand on a des...
Mais est-ce que c'est un style littéraire déjà installé, déjà reconnu? Est-ce que ça s'est fait de tout temps?
Je sais qu'il y a eu une collection à une époque qui s'appelait je ne sais plus comment, où il fallait vraiment faire des remakes. Mais je pense que... Oui, je pense que c'est une tradition très ancienne, ça, les remakes. Je pense que Ésope et La Fontaine, c'est déjà ça. Enfin, dans l'autre sens. La Fontaine a reméqué Ésope. Ouais. Donc oui, on s'est toujours inspiré des autres. Et c'est aussi... J'allais dire une forme d'humilité, c'est qu'on sait bien qu'on n'invente pas les histoires. Les histoires, à la fois, il y en a des infinités, et en même temps, c'est toujours les mêmes. Donc, je trouve ça assez amusant de prendre une histoire et de s'y frotter et de la faire sienne, sachant que tous les livres sont un peu des prétextes pour chanter sa chanson. Donc,
Jean de Tinon, reméqué donc par voilà. Anna Rosen. J'ai eu des nuits ridicules, c'est édité par Le Dilettante. Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous, bonne journée.
Vous pouvez réécouter cette émission en passant par franceculture.fr, écoute en ligne ou en podcast disponible à la page de l'émission L'autre jour est possible. Je vous retrouve demain à la même heure pour continuer avec Sven Ortoli de parler d'Astérix, un Européen par Toutatis, c'est la série de cette semaine. Et en deuxième partie, je recevrai le romancier Jean-Luc Marty. Bonne matinée sur France Culture.